Radio Kapi. Oh, Kapi.
Au sommaire de cette édition d'information, la situation reste incertaine. Ce jeudi, dans la ville de Goma, une panique s'est emparée de la population depuis tôt ce jeudi 23 janvier. Jusqu'à présent, les autorités n'ont pas encore communiqué sur la situation à Sake. Des détails dans quelques instants. Des tirs nourris ont été entendus la nuit dernière au quartier Molende et Bikinda dans la commune de Selembao à Kinshasa. Une femme violée, de l'argent et des objets de valeur emportés. C'est le bilan de cette attaque attribuée aux bandits armés dans cette localité. Notre invité est Bruno Lemarquis, coordonnateur résident et coordonnateur des opérations humanitaires en RDC. Il invite le gouvernement à mettre en place des moyens nécessaires pour stabiliser les zones sous menace des rebelles dans l'ensemble de la province du Nord Kivu. Bonjour à toutes et à tous. Au Nord Kivu, la situation reste incertaine ce jeudi dans la ville de Goma. Une panique s'est emparée de la population depuis tôt ce jeudi 23 janvier. Jusqu'à présent, les autorités n'ont pas encore communiqué sur la situation à Sake. Cependant, plusieurs sources, notamment la population en fuite, affirment que la cité de Sake serait infiltrée par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. On aperçoit de nombreux mouvements des populations se déplaçant vers Goma. Par ailleurs, des blessés sont également transportés sur des motos et autres moyens vers les hôpitaux. Si Famagourou se trouve à l'hôpital Sebekandocho de Goma, elle nous donne la situation. Bonjour Sifa, quelle est la situation à Goma pour l'instant?
Oui, bonjour Patience Balangué, bonjour à tous les auditeurs de Radio Kapi. Il faut dire que la population des Sake et des Mugunga a été réveillée par des détonations d'armes lourdes ce matin. D'après plusieurs témoignages des malades et des blessés, on a réussi à faire parler. Les habitants ainsi que les déplacés vivant dans cette partie ont été surpris par de fortes détonations aux environs de 3 heures du matin, ont-ils expliqué. Les temps d'essayer de se sauver, beaucoup d'habitants ont été attrapés par des balles et des bombes au niveau de Mubambiro, c'est entre Mugunga et Sake. C'est là que beaucoup de gens ont été blessés grièvement. S'en est suivi un mouvement de la population, des véhicules, des militaires et une confusion totale.
Comment se comporte la population de Goma en ce moment?
En tout cas, c'est l'incertitude. Toutes les écoles de la ville ont libéré les élèves déjà ce matin. Les activités sont quasiment paralysées et tous les parents cherchent à réunir d'abord leurs enfants, tandis que nombreuses personnes affluent vers les hôpitaux, notamment ici à Sebeka, pour chercher leurs membres de famille blessés ou introuvables.
Alors Sifa, que disent les autorités et les humanitaires face à cette situation d'incertitude?
Aucune communication officielle jusqu'au moment où nous parlons, patience. Même les humanitaires se réservent de communiquer sur ce qui se passe actuellement. Voilà brièvement ce qu'on peut retenir pour l'instant dans la ville de Goma.
Sifa Maguru, merci. Face à l'intensification des combats ce jeudi dans les environs de Sake, des familles entières prennent la direction de Goma. Des déplacés qui viennent s'ajouter à ceux qui ont fui les combats hier dans la zone d'Enzulo. Ces arrivées créent également la panique parmi les habitants des sites autour de Goma. Une situation que nous décrit Léopold de Mouissa de la société civile de Kamuronza dans le territoire de Masisi dans cet extrait sélectionné par Chris Mukand.
Il y a des populations qui sont éparpillées sur la route Sake-Goma, ne sachant pas dans quel sens se diriger. C'est vraiment un spectacle désolant. Et nous demandons au gouvernement de prendre vite des initiatives pour récupérer les zones déjà conquises. Mais aussi, il faudrait que des équipes soient dirigés sur terrain pour encadrer tous ces déplacés qui ne savent pas où aller. Mais aussi, au niveau de Kinshasa, il faudrait qu'on dépêche le chef d'état-major général qu'il puisse venir palper des doigts la situation que nous sommes en train de traverser. Parce qu'il y a une école qui pense que peut-être que la communication sur cette guerre est différente. Et donc, il y a une compréhension au niveau ici de l'Est et une autre compréhension au niveau de Kinshasa. Parce qu'on ne comprend pas vraiment comment les gens peuvent continuer à souffrir jusqu'à ce niveau et que des mesures ou des décisions sérieuses ne soient prises pour mettre fin à cette situation. C'est vraiment, vraiment, vraiment inquiétant.
Entre-temps, des centaines de ménages fuient également les zones de combat et arrivent à Goma. C'est une marée humaine des déplacés qui continue d'inonder les rues de Goma dans sa partie ouest. La ville de Goma, qui s'est transformée en grand camp des personnes déplacées, alerte les acteurs sociaux. Ces personnes déplacées arrivent en masse fuyant les nouveaux combats dans leur village. Tout comme certains sites des déplacés de Mugunga se vident progressivement depuis ce matin. Leur arrivée crée une psychose généralisée à Goma. Denise Lukeso.
Cet afflux est observé dans les quartiers Lac Vert, Mugunga et Ndosho. Ces nouveaux déplacés proviennent d'Nzulo, Sake, Mubambiro et d'autres localités du territoire de Kalehe au sud Kivu. Ils s'ajoutent à de nombreux autres qui sont dans des sites déjà aussi saturés. Le président des camps de Boulengo affirme que certaines de ces personnes ont passé la nuit à la Belle Étoile faute d'abris disponibles dans des camps. Alors que le site d'Nzulo s'est vidé totalement de tous ces déplacés depuis le début de cette semaine, les occupants d'autres sites tels que Lushagala, Boulengo, 8e Sepak, dans les quartiers Mugunga, quittent préventivement leur site pour se mettre à l'abri. Ils arrivent à Goma dans des familles d'accueil. Plusieurs acteurs déplorent qu'aucune disposition ne soit prise par les autorités provinciales pour accueillir ces compatriotes qui sont en détresse. Ils appellent les autorités à activer en toute urgence les plans de contingence humanitaire pour venir en aide tous ces déplacés.
Le problème aujourd'hui, il faut maintenant imaginer comment accueillir ces gens, comment les orienter. Il n'y a pas ces plans-là de contingence humanitaire. Ce pays n'est pas passé aux élections en 2023 pour assister au désastre qu'on est en train de voir aujourd'hui. Alors, si tous ces gens-là sont abandonnés, alors pour quelles raisons aujourd'hui on va encore dire qu'on a des autorités qui sont là pour travailler pour l'intérêt du peuple?
La société civile urbaine de Goma, elle, appelle la population à la solidarité tout en restant vigilante. Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Calais et Centre, chef-lieu du territoire du même nom, est débordé par le nombre de déplacés qui viennent en masse de la partie nord depuis l'occupation de certaines agglomérations par le M23 et leurs alliés de l'armée rwandaise. Plusieurs dizaines de milliers de déplacés internes fuyant massifs y sont arrivés à Calais et Centre en provenance des zones sous contrôle des rebelles. Jean Kassami nous décrit les conditions d'accueil de ces déplacés.
Calais et Centre est suffoqué par le surnombre de déplacés internes qui ne cesse d'accroître au jour le jour. Leurs conditions de vie laissent à désirer, renseigne le président de la société civile, Dimilier Kassole Ngonyozi.
Il y a beaucoup de déplacés dans presque tous les villages de Calais littoral qui sont venus de Minova, de Nyabibwe, de Kalungu, de Butchiro et consorts.
L'administrateur assistant du territoire de Kalehe confirme le débordement de l'autorité locale. Archimède Karebois sollicite l'appui des humanitaires.
La situation elle est chaotique parce qu'il n'y a pas accès humanitaire. Nous sommes en train de connaître, n'est-ce pas, un afflux de déplacés fuyant les combats dans les hauts plateaux et qui prennent la direction de la route nationale numéro 2, c'est-à-dire côté Nyabibwe, Calais Centre. Nous sommes en train d'appeler les gouvernements et les intervenants humanitaires de faire en toute urgence, c'est-à-dire l'assistance en vivre et non vivre, l'assistance médicale et l'assistance psychosociale.
Le mouvement se poursuit suite à l'incertitude qui plane sur l'axe Calais et Centre Minova. Jean Kassami, Bukavu, Radio Okapi.
Je le disais au sommaire, des tirs nourris ont été entendus la nuit dernière au quartier Molende et Bikinda dans la commune de Selembao à la frontière avec celle de Ngaliema. Des échanges de tirs ont eu lieu entre la police et des bandits armés. Ces derniers ont attaqué au moins 4 parcelles, dont une boulangerie. Une femme a été violée, de l'argent et des objets de valeur emportés. Autre précision avec Mathias Ouomoumou, bourgmestre de Selembao, joint par Babel Pongo et Nassi Tambo.
Il y a eu incursion de personnes armées non entièrement identifiées dans les quartiers Molende sur l'avenue Louvemba et l'avenue Kingusi. Pas de blessés, pas de pertes à vie humaine, mais ils ont violé une dame, ils ont emporté l'argent et beaucoup d'objets de valeur. Et dans les quartiers Bikinda sur l'avenue Boma, ils étaient nombreux, ils sont enterrés dans une boulangerie. Il y a eu échange de tirs, ils ont pris fuite. Sur l'avenue Boma, c'est pour la deuxième fois cette boulangerie, au mois de décembre, ils zones enterrées. On a renforcé la police dans les deux quartiers. À question c'est dans Saya. On violait la vigilance de la police pour aller opérer. À partir de 14h, on a une réunion de conseil de sécurité pour renforcer nos stratégies sur le terrain pour que la population soit un peu calme. Nous demandons seulement à la population de collaborer avec nos services. Quand vous voyez une personne suspecte, prière d'informer les services pour que nous identifions la personne là, pour que nous mettons fin aux actes barbares comme ça.
Notez que des cas pareils sont aussi signalés ces derniers jours au quartier Mbandaka dans la commune de Bumbu, entre les avenues Landou et Révolution, direction Matapol. Les derniers cas a eu lieu le mardi. Une série de cambriolages sont enregistrés également depuis le début de cette semaine dans plusieurs quartiers de la ville de Kalemie. Des sources rapportent que parmi les victimes de ces attaques, il y a un ancien ministre provincial qui a été blessé à l'arme blanche. Le mouvement citoyen Parlement debout sans tabou lance un appel au gouvernement du Tanganyika de renforcer la sécurité de la population. Le point avec Paulin Munanga.
Des sources concordantes renseignent que dans la nuit de mercredi à ce jeudi, des malfrats munis d'armes à feu ont attaqué le domicile du chef coutumier Tchenge au quartier Kankomba dans la commune du Lac. Des coups de feu ont été entendus, rapportent les mêmes sources. Les bandits ont emporté de l'argent et plusieurs biens de valeur dans la maison du chef coutumier. Des témoins indiquent que des malfrats ont emporté une importante somme d'argent chez un changeur de monnaie. Dans la nuit de mardi à mercredi dernier au quartier Joseph dans la commune de la Lukuga, la maison de l'ancien ministre provincial de l'agriculture, pêche et élevage du Tanganyika a été la cible des hommes non autrement identifiés. Ils l'ont blessé à l'arme blanche avant d'emporter de l'argent et plusieurs biens de valeur. Pour le président du mouvement citoyen Parlement debout sans tabou, le gouvernement du Tanganyika devrait renforcer la sécurité de la population. Nathan Mugisho.
Nous appelons le gouvernement provincial, par à travers le ministère de l'Intérieur, de fournir tous les moyens possibles, de mettre en place toutes les stratégies nécessaires afin de nous donner la sécurité dans la ville de Kalemie.
Rappelons que les services de sécurité présentent régulièrement aux autorités provinciales des présumés bandits qui sont appréhendés dans la ville de Kalemie. Kalemie, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Tout autre chapitre, la situation alimentaire est préoccupante dans la province du Kwango. Depuis un moment, la malnutrition aiguë sévère et chronique sévit dans ces coins du pays, plus précisément dans les zones de santé des Panzi et des Wambaluadi, en territoire des Kasongo-Lunda. L'alerte est lancée par Shadrack Kasongo Kabea du ministère provincial de la Santé du Kwango qui revient de ces zones pour des enquêtes. Il plaide auprès de l'État congolais pour une réponse urgente et durable face à cette crise. On écoute Shadrack Kasongo Kabea, joint par Irène Bomaluzolo.
Il y a une installation de la sécurité alimentaire. Il y a la malnutrition chronique aiguë sévère. Et comme conséquence, il y a le mort en cascade dans la zone de santé de Panzi et dans la zone de santé de Wambaluadi. Presque toutes les 5 zones de santé du territoire de Kasongo-Lunda sont concernées par la malnutrition. Mais beaucoup plus le pissantre, c'est dans les 2 zones de santé dont je viens de vous décrire. J'étais au terrain. Au premier tour, on avait enregistré plus de 70 décès dus à la malnutrition. C'est la période allant du début novembre jusqu'à fin novembre de l'année passée. Et après encore 2 semaines passées, on a enregistré plus de 30 morts dans le village Tambouteke et dans le village Mombo. Ce sont des décès qui ont été causés par la malnutrition. Il y a eu le cas Kwashekore et le marasmique, toutes les tranches d'âge. Ça nécessite une réponse en urgence. Vous comprenez, quelqu'un qui a atteint de la malnutrition, son système immunitaire devient trop faible. Et que toute pathologie qui vient, la personne sera attaquée. Il n'y a pas d'intra, il faudrait que l'État congolais fasse quelque chose.
D'après Shadrack Kasongo, presque toutes les 14 zones de santé de la province du Kwango ont des problèmes de malnutrition.
Actualité internationale.
Au Kenya, un nouveau centre de dialyse redonne de l'espoir aux patients des communautés rurales situées dans les comtés de Muranga. Le centre est censé soulager les personnes atteintes des maladies rénales chroniques. Bien que l'emplacement de cette localité puisse sembler idyllique, l'accès aux commodités de base peut être un défi pour les habitants.
L'invité.
La situation humanitaire demeure préoccupante dans l'ensemble de la province du Nord Kivu, où plus de 200 000 nouveaux déplacés sont signalés dans les territoires de Lubero et Beni. C'est ce qu'affirme ce mercredi à Radio Kapi les coordonnateurs résidents et coordonnateurs des opérations humanitaires en République démocratique du Congo. Bruno Lemarquis pense qu'il y a urgence, que les gouvernements mettent le moyen nécessaire et que les efforts militaires soient fournis pour stabiliser les zones sous menace. Cela pour permettre aux humanitaires d'atteindre les zones affectées par les déplacements des populations. Bruno Lemarquis s'entretient avec Marc Marofimbo.
Bruno Lemarquis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dans le Grand Nord de la province du Nord Kivu pour vous imprégner de la situation humanitaire dans la région. Quel est votre constat?
Bon, la situation humanitaire reste difficile. On a eu beaucoup de rencontres ici. C'était une visite assez courte. On a eu une rencontre avec les partenaires humanitaires qui nous ont fait le point sur la situation. Nous aurions dû aller à Lubero, mais hélas, on n'a pas pu s'y rendre à cause des problèmes de brouillage du GPS, qui pose pas mal de problèmes pour les acteurs humanitaires. Et d'ailleurs, pour tous les vols sont affectés, les vols commerciaux, etc., et les vols humanitaires. Mais on a eu un bon état des lieux par les partenaires humanitaires. Il y a eu beaucoup de nouveaux déplacements récemment, notamment dans la zone de Lubero depuis le mois de juin. Donc c'est une combinaison du conflit avec le M23, mais aussi dans certaines zones, l'activisme des ADF. Autour de Lubero, on estime qu'il y a à peu près 200 000 personnes qui sont nouvellement déplacées. La plupart vivent dans des familles d'accueil. 80% vivent dans des familles d'accueil. Encore une fois, ça démontre l'exceptionnelle solidarité des communautés par rapport aux déplacés. Les 20% qui ne sont pas dans les familles d'accueil vivent dans des sites collectifs. Donc là, il y a beaucoup de travail à faire pour améliorer ces sites, pour que les déplacés ne restent pas dans des infrastructures collectives comme des écoles, etc. Donc, les humanitaires, bien sûr, ont besoin de plus de moyens, comme toujours, vu l'étendue des besoins dans cette zone du Nord Kivu, mais également d'autres endroits du Nord Kivu et l'Ituri et le Sud Kivu. On suit tous la situation du Sud Kivu actuellement avec encore une fois un afflux de nouveaux déplacés. Donc tout ça, ça prend beaucoup de ressources, de présence des partenaires humanitaires, etc. Donc voilà, il faut continuer, il faut espérer que les solutions politiques au conflit fassent des progrès, puisque c'est la seule manière de faire en sorte que les déplacés, les personnes ne soient pas obligées de se déplacer et que les déplacés ensuite puissent rentrer chez eux.
Vous avez échangé avec des organisations humanitaires actives dans la zone. Or, on connaît les contraintes sécuritaires qui ne facilitent pas leur travail. Pouvez-vous nous dire justement dans quelles conditions travaillent chaque jour ces acteurs humanitaires pour apporter de l'aide aux personnes vulnérables qui en ont grandement besoin?
Bon, ils ont beaucoup de contraintes. Alors les humanitaires ont quand même, d'une manière générale, à part quelques exceptions, mais d'une manière générale, accès aux personnes dans le besoin. Oui, puisque les humanitaires, on travaille, il faut qu'on ait accès aux personnes dans le besoin, qui qu'elles soient, où qu'elles soient, selon les principes humanitaires. Néanmoins, quand il y a des combats actifs, c'est très difficile pour les acteurs humanitaires d'être là, au milieu des combats. Donc là, c'est les problèmes d'accès physique. Ensuite, du fait notamment de l'activisme des ADF, il y a certaines zones qui parfois sont difficiles d'accès par les routes. Voilà. Donc, et puis l'autre contrainte, bien sûr, c'est les ressources, puisque bon, on n'a jamais assez de ressources vu l'étendue des besoins. Parce que partout où je vais, moi, les humanitaires disent bon, on n'a pas assez de moyens pour tous les besoins et la qualité de la réponse n'est pas suffisante. Mais pour information, les financements humanitaires qui ont été mobilisés en 2024 par les partenaires, donc les États membres, les donateurs, notamment les États-Unis d'Amérique, ont été les plus hauts jamais mobilisés en RDC, les plus hauts jamais mobilisés au cours de toutes les dernières années. Jamais il y a eu autant d'argent pour la réponse humanitaire, avec 1,3 milliard de dollars qui ont été mobilisés. Ça ne couvre que la moitié des besoins, mais néanmoins, on doit reconnaître que des efforts considérables ont été faits par la communauté internationale pour financer cette réponse humanitaire. Pour 2025, on sait que la situation va être difficile pour les financements humanitaires pour 2025, mais on va toujours continuer à faire le plaidoyer et on remercie les bailleurs de fonds pour la réponse humanitaire.
Et face à cette situation, que recommandez-vous au gouvernement ?
Bon, une demande récurrente des acteurs humanitaires, notamment par rapport à la situation, à l'activisme des ADF, la recrudescence de la présence d'ADF dans des zones où ils n'avaient pas été actifs depuis un moment, ou même de nouvelles zones, c'est la présence sécuritaire de l'État. Donc, du fait du conflit avec le M23, que ce soit dans les zones, si on peut les appeler comme ça, les zones ADF, ou cet après-midi nous allons en Ituri, mais je pense que ça va être le même plaidoyer, en Ituri, c'est le fait qu'il y a des mouvements de troupes qui doivent être bougés vers les lignes de front, vers les lignes de défense dues au conflit avec le M23, ce qui crée certains vides sécuritaires dont profitent des groupes armés, notamment les ADF. Donc il y a une corrélation entre ces mouvements de troupes et le nombre de victimes civiles qui sont faites par les ADF. Donc le plaidoyer, c'est vraiment que les forces armées de la République démocratique du Congo continuent également à déployer des moyens sécuritaires dans ces zones-là où les populations civiles souffrent vraiment.
Bruno Le Marquis, merci.
Merci beaucoup et merci aux auditeurs de Radio Okapi.
Les coordonnateurs résidents et coordonnateurs des opérations humanitaires en République démocratique du Congo, Bruno Le Marquis, répondaient aux questions de Marc Marofimbo. Et c'est par ici que nous bouclons cette session d'actualité. Merci à Martin Sebujangwe et Élisée Tchukota Tchivueta qui l'ont préparé pour vous. Merci également à Dieudonné Nyangasa Wanyangasa qui a assuré sa mise en onde. Patience Ngalula Mbombo, c'est moi. Merci à vous aussi de l'avoir écouté.